bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre dans cette lorgnette spéciale élection municipale de Blois. Nouvelle émission avec un nouveau candidat, une nouvelle liste qui se présente ici donc, pour ces élections 2026 à Blois. J'accueille donc la liste Blois en commun et comme pour les autres émissions, Studio Zef a invité d'autres structures associatives et socioculturelles de la ville pour échanger avec les candidats. J'ai le plaisir de recevoir deux représentants de la LCV donc dans cette émission. Bonjour à vous deux, Frédéric Pinault, directeur. Bonjour Frédéric.
Bonjour Thomas.
Et Marie-Laurence Giraudot, bonjour.
Bonjour.
Co-présidente et trésorière donc de la LCV.
C'est la même.
Merci à vous deux d'avoir de se prêter au jeu. Je sais que l'exercice n'est pas facile et donc je vous en remercie d'avoir d'être venu pour interagir avec ces deux colistiers. Voilà, la tête de liste et une colistière donc de Blois en commun. Bonjour Nicolas
Orgelet. Bonjour.
Merci d'être là. Donc tu es venu. Alors on va se tutoyer, on se connaît. Tu as été bénévole à Studio Zef, on va pas faire semblant. Et puis ça n'empêche pas d'être, de poser des questions et d'aller au fond des choses. Donc tu seras traité pareil que les autres candidats malgré le tutoiement. Voilà, on sera, on va évidemment être très clair là-dessus. Tu es venu avec une colistière donc qui va se présenter.
Oui, bonjour à tous. Merci pour l'invitation, Claire Molière. Je suis deuxième sur la liste de Blanc en commun et je suis ravie d'être là avec vous pour parler culture association.
On est ravis de vous inviter donc effectivement pour ces émissions qui vont tourner majoritairement. Voilà, je n'exclus pas que au gré des questions qui ont été préparées par les représentants de la LCV et moi-même qui participerai à cet entretien, ça déborde un peu, mais effectivement nous avons décidé de cadrer sur sur un cœur d'activité qui est le nôtre, que l'on partage avec la LCV, à savoir le culturel, l'action sociale, l'action culturelle et la défense et le soutien au milieu associatif. Voilà, ce sont des sujets transversaux, donc je n'exclus pas effectivement que ça puisse déborder et ce sera tout à fait passionnant si ça l'est. On fera une petite pause musicale histoire de se remettre les idées au clair en cours de chemin et puis donc on passe la parole à Nicolas qui va nous faire une petite introduction du pourquoi, des enjeux de cette création de cette liste Blois en commun.
Eh bien, je te propose de faire une introduction sous l'angle de l'éducation populaire, puisqu'on est avec une association d'éducation populaire. Et quand on a créé cette liste, c'est de l'éducation populaire d'abord qu'on a voulu faire, c'est-à-dire co-construire, apprendre comment on co-construit un projet en partant avec des citoyens, la majorité non encartée, sur voilà, quel est le bilan de la majorité, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien, redonner le goût de la chose public aux gens en partant de leurs envies et imaginer Blois demain. Ça, c'est le point de départ de notre liste pour avoir une démocratie qui soit vivante, pour participer à réirriguer la gauche dans ses idées, dans ses visages, lui donner aussi un nouveau souffle, voilà, se projeter dans l'avenir et permettre le renouvellement du personnel politique et de ses idées. Et puis voilà, on a co-construit, en fait on a d'abord construit un projet, politique et à la fin on a voté en plénière, en fait toutes nos grandes stratégies, on les vote en plénière avec ce qu'on appelle une décision par consentement, c'est-à-dire que les 60, 70, 80 personnes sont là et en fait on lève les objections jusqu'à se mettre d'accord et là il y a une volonté de partir en autonomie et après on a voulu que cette liste elle soit l'image de Blois, c'est-à-dire diverse parce qu'on pense que la diversité de Blois et ses quartiers, ben, c'est la chance sur laquelle on veut s'appuyer pour construire Blois demain. Et donc on s'est unis avec un autre collectif des quartiers nord qui s'appelle Nous Blois, et tout ça, ça a construit Blois en commun, une liste avec des gens de milieux sociaux différents, de métiers très différents, et autour d'un projet qu'on veut ambitieux, qui balaie toutes les compétences de la ville. Donc c'est ce qu'on appelle une liste citoyenne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de parti politique, je le dis, hein, mais ça veut dire que les partis politiques, en fait, ils sont là en soutien et ne doivent pas être là en surplomb. Aucune place n'était réservée à des partis politiques. Toutes les décisions, tous les partis politiques qui nous soutiennent s'engagent à valider les décisions prises par le collectif et pas imposer leur choix. Et en fait, c'est d'abord ça, une liste citoyenne, c'est une manière de décider ensemble, collectivement, et c'est la manière dont on veut porter la démocratie demain.
C'est une tendance de fond, avant de rentrer dans les questions culturelles et socioculturelles, j'ai l'impression ces listes citoyennes démocratique. On a fait des émissions à Vendôme où il y a également une liste qui s'est constituée comme ceci. C'est une tendance de fond à l'échelle nationale, c'est liste citoyenne, plutôt ouais. Ancrée à gauche aussi.
Oui, c'est vraiment une tendance de fond, effectivement. Aujourd'hui, on a...
La question de la réappropriation de la population,
ouais. Tout à fait, on a près de 700 listes citoyennes qui se présentent aux élections municipales de 2026. Donc c'est vraiment une tendance de fond. C'est vrai qu'on sent qu'il y a vraiment ce besoin à la fois de recréer du lien dans le territoire, mais aussi de retrouver un pouvoir d'agir, un sentiment d'utilité sur la chose publique, de se sentir effectivement légitime de participer à ça, à la construction de la ville demain. Nous, c'est vraiment notre objectif. C'est pour ça qu'on a vraiment à cœur, sur des grandes priorités, d'avoir dans le programme des conventions citoyennes sur la santé, sur la tranquillité publique, sur l'économie. On pense vraiment que c'est en associant les habitants, en faisant avec eux et pas à leur place, que les choses avancent vraiment et que, en fait, on gagne réellement du temps dans la durée.
Merci pour cette petite précision sur l'essor des listes de citoyennes qui SM partout en France et donc on en a un exemple ici à Blois avec vous. Parlons donc concrètement, on va se lancer sur les sujets culture. Qui veut se lancer, Marie-Laurence, Fred?
Moi, j'ai peut-être une première question, parce que j'ai un peu consulté votre programme, peut-être pas dans son entièreté, mais du moins, moi, ma première question, elle allait vers le monde associatif et l'articulation avec le pouvoir public. Je m'explique, moi, ce que j'ai senti, en fait, quand j'ai lu, en fait, ce programme, c'est qu'on redéfinissait un peu l'action publique. Et peut-être que, moi, ce que j'aimerais savoir, enfin, ce qu'on aimerait savoir, c'est aujourd'hui, c'est comment vous envisagez la construction, voilà, d'un projet avec les associations. Qu'est-ce que vous imaginez comme méthode, en fait, de travail avec l'ensemble du tissu associatif blésois, qui est très, très dense et très présent sur le territoire, toutes ses formes, hein, pas seulement culturelles. Évidemment.
On attaque direct.
Ok. Justement, en fait, on pense qu'une des chances de Blois, c'est la diversité et la richesse de son tissu associatif. Et que le rôle de la mairie, c'est de garantir l'indépendance des associations. Parce qu'on voit bien qu'à l'échelle de l'État, c'est de plus en plus attaqué cette indépendance depuis la loi contre le séparatisme, où on demande une neutralité aux associations. Parce que, et en réalité, derrière cette neutralité se cache une volonté de mise au pas où on demande de plus d'engagement politique. Nous, on veut cette liberté associative qui fait une richesse. Et je pense que, par contre, le rôle de la mairie, c'est de faciliter les projets croisés. Parce que c'est une manière aussi de mélanger des cercles sociaux qui vivent les uns à côté des autres. On assiste aujourd'hui à ce qu'on appelle une archipélisation de la société. C'est-à-dire, on peut avoir des communautés qui, nous-mêmes, on va avec des gens qui sont proches de nous dans leurs valeurs, dans leur manière de vivre. Et en fait, je crois que le rôle de la mairie, c'est de recréer du vivre ensemble, de faciliter ce vivre ensemble. Et pour ça, on voudrait en fait que notre rôle, ce soit de faciliter des temps d'échange entre associations réguliers pour voir comment on peut porter et faciliter des projets croisés. Et donc remettre à plat la programmation culturelle avec les associations et pas être un opérateur de plus, mais plutôt un facilitateur de projets croisés. Et je m'arrête là et je rebondirai.
Alors, moi, c'est vrai que cette idée-là, elle me plaît, parce que j'ai des souvenirs de mairies, notamment dans la banlieue parisienne, qui effectivement avaient fait un choix, c'est-à-dire de ne pas être opérateur d'événementiel, et d'avoir en fait un travail plutôt d'accompagnement du tissu associatif. Et j'avais trouvé à l'époque que c'était des choix politiques vraiment forts, en disant, on ne confond pas communication et culture. Et donc, quand on a un tissu associatif local, en fait, on s'appuie sur lui et on coordonne en fait une action culturelle, ma foi, intelligente, enfin, du moins, il me semble.
Peut-être pour poursuivre cette idée, effectivement, d'interaction en fait du rôle de la mairie avec les associations. Nous, ce qu'on a voulu défendre dans le programme, c'est cette garantie en tout cas de l'indépendance de la culture et de faire confiance aussi aux acteurs en présence, de se dire que on fera pas à la place d'eux, mais qu'aujourd'hui il y a des acteurs associatifs qui sont très implantés, qui sont très divers par leur taille, par leurs activités, et de se dire que nous, notre rôle, c'est aussi de faire de la mise en réseau. C'est vraiment d'être dans ce rôle de facilitation, d'avoir un service culturel justement qui se positionne comme un passeur de relais, en fait, une façon de créer des initiatives effectivement et des ponts entre différentes associations. Nicolas en parlait tout à l'heure, hein, cette théorie de Jérôme Fourquet, hein, de l'archipel français, c'est vraiment, en tout cas, notre conviction de se dire que par la culture, c'est comme ça qu'on recrée des ponts et des passerelles. Et c'est en ça que la mairie, elle est pertinente pour justement se positionner comme un trait d'union, voilà, entre tout le monde.
Je rebondis aussi, tu parlais Nicolas de mise au pas, notamment de l'État avec cette loi séparatisme. Ce sera peut-être ma marotte sur toutes les émissions qu'on va faire avec les candidats. Je l'ai évoqué dans d'autres émissions, donc c'est la question du contrat d'engagement républicain. Quelle vision toi tu vois de ce document qui est à remplir par toutes les associations lors d'appels à projets et qui suscite quand même pas mal de défiance de la part des associations?
Nous en fait on voudrait suivre les recommandations du mouvement associatif, c'est-à-dire on a dit qu'on crée des espaces de dialogue entre associations, ça c'est notre premier propos, et en même temps on voudrait construire des chartes d'engagement réciproques où l'idée c'est pas le contrat d'engagement républicain, c'est plutôt comment on se met d'accord avec les associations sur ben tiens c'est quoi notre grand projet de mandat commun, les grandes lignes directrices, et après par contre plutôt aller vers une pluriannualisation des aides pour que les associations elles viennent venir, elles sachent pas tous les ans combien elles vont avoir ou pas avoir, et elles se retrouvent à faire beaucoup de dossiers administratifs. On se met d'accord un peu sur les grandes valeurs qu'on a envie de défendre pendant le mandat, ou les grands projets remis à plat, par exemple, de délire d'hiver, délire d'été. Nous, on avait dit, ben tiens, on fait les nuits blésoises, et en travaillant sur les droits culturels, et en ayant un festival qui se déplace dans les quartiers, et qu'on co-construit avec les associations, ça c'est une proposition. Et en fait, dans ce contrat d'engagement réciproque, c'est tout l'inverse du CER, du contrat d'engagement républicain, parce que le CER... ça part de la loi contre le séparatisme. Mmh. Et en réalité, à la base, ils avaient dit que c'est de la lutte contre le terrorisme islamiste. On part de ça. Mais la réalité, c'est que des manquements à la laïcité, il y en a eu 5 en 4 ans sur 1,5 million d'associations. Donc c'est le fauné d'une mise au pas du monde associatif pour le dépolitiser et pour créer de l'autocensure. Moi, c'est comme ça que je vois. Et je pense qu'en fait, en France, justement, les associations, elles repolitisent le monde dans le bon sens, c'est-à-dire se poser des questions sur quelle société on veut, pouvoir être critique du pouvoir politique. C'est pour moi un contre-pouvoir intéressant. C'est pour moi un porte-voix des citoyens dans ce qu'ils vivent dans leur quartier, parce que l'association, elle a l'avantage de la proximité. Souvent, ils vont compenser des défaillances de l'État ou des collectivités là où ils ne sont pas suffisamment présents, et avec cet avantage de la proximité. Et moi, la proximité, je pense que c'est ce qu'il faut qu'on recrée si on veut une démocratie qui soit forte, qui soit vivante, parce qu'elle est beaucoup plus fragile que ce qu'on pense, cette démocratie.
Marie-Laurence.
Moi, c'est la proximité là, qui m'interpelle un peu. En fait, nous... alors moi, je vais parler pour ma...
Tu as le droit, Marie-Laurence.
Voilà.
Pour la LCV. Pour ta paroisse.
Pour ma paroisse, j'allais dire.
Comme on dit en bon laïcard. Hein.
C'est pas laïque du tout. Le truc, c'est que nous, si tu veux, proximité, on veut bien travailler avec les gens, justement, par rapport à... Alors, on va parler juste de la LCV et du quartier Vienne-Bas-Rivière. Il y a plein de gens qui sont des invisibles, tu vois. Et du coup, on n'est pas, par exemple... politique de la ville. On n'est pas quartier. Donc on a moins de moyens. Et c'est vrai que... Alors bon, ça passe pas uniquement par le financier, mais quand même, on aurait la volonté de faire des choses pour essayer de ramener des gens, pour être justement travailler sur cette proximité, pour ramener des gens qui auraient besoin de l'éduc pop. Pour aller mieux, pour se sentir bien, pour se permettre et se dire « oui, je suis légitime à aller à la LCV et ». Et ça, tu vois, par exemple, on ne l'a pas. On est un peu bloqué, on ne sait pas comment faire, en fait. Nous, on veut bien la proximité, mais on ne sait pas comment faire.
Bah moi, je pense que vous faites mieux que ce que tu me dis, parce que quelqu'un qui vient prendre des cours de yoga, quelqu'un qui vient faire de la couture, etc., c'est déjà remettre de la proximité, tu vois, et c'est déjà toucher d'autres personnes, et en fait créer du dialogue entre les gens et avoir des lieux de sociabilité. Ouais. C'est juste recréer, pour moi, c'est aussi juste préserver des lieux de sociabilité en proximité. En fait, ce que je veux, c'est que éviter que toutes les demandes, ça soit, tu vois, pour moi, c'est pas le maire qui doit être le réceptacle de tous les besoins. Au contraire, c'est comment on démocratise et comment on recrée du... Tu vois,
bah oui, j'entends bien ça, mais voilà, le truc, c'est juste que moi, je suis d'accord dans l'idée, mais après, moi, j'ai besoin d'outils.
Ouais.
Voilà, enfin, moi, nous, on a besoin d'outils. si tu veux. Ouais. Tu vois, moi, je vis en Vienne et je vois bien qu'il y a plein de gens qui ne viennent pas à la LCV. Et pourtant, ça serait vachement bien qu'ils viennent. Parce que je pense que, là, tout à l'heure, on parlait de je vais le traduire à ma façon, mais d'esprit politique, si tu veux, d'esprit citoyen. Il y a plein de gens qui sont complètement à côté de ça, qui ne sont plus du tout dans ces raisonnements-là, tu vois.
Je pense, voilà. Tu voulais intervenir, Claire?
C'est très bien,
je comprends après. Vas-y.
C'est, oui, en fait, c'est vraiment cette question de comment on fait pour...
On parle bien dans le micro, Claire.
Pardon, comment on fait pour fidéliser les publics et pour en attirer de nouveaux. Et ça, c'est aussi une question de visibilité, d'implantation dans le quartier en question. Et peut-être que sur ça, justement, c'est aussi permettre aux associations d'avoir des moyens partagés entre elles, justement, pour gagner en efficacité, pour gagner en visibilité. Ça peut être aussi de donner des espaces d'expression sur les outils de communication de la mairie pour faire connaître aussi des initiatives, pour valoriser des choses, en particulier si elles sont interquartiers, en particulier si elles sont transversales à la ville. En tout cas, nous, en tant que futurs élus, on l'espère, on n'aura pas de baguette magique, mais je pense qu'il y a des moyens aussi pour donner de la visibilité à ce que vous faites.
Moi, je veux bien donner plusieurs exemples dans les choses qu'on propose. Le budget participatif, on voudrait que ça soit en fait qu'il soit plus travaillé avec les gens sur un temps long, c'est-à-dire qu'en fait pour repolitiser justement, venir dans les quartiers avec le budget participatif et co-construire des propositions où nos agents et nos services travaillent les propositions avec les gens, pas juste qu'on leur dise ça marche, ça marche pas, mais plutôt on part de votre problématique et on la construit ensemble. Souvent aussi la politisation des citoyens, ça commence par une colère contre un projet, et plutôt que de dire non mais vous avez pas compris, et alors que nous on a compris donc on va faire ce projet là, plutôt prendre cette colère pour travailler avec eux le projet, et ça permet de comprendre ce qui est faisable, ce qui ne l'est pas, et de réintéresser à la chose publique. Donc il y a des choses où je pense que c'est vraiment le rôle plutôt de la mairie, et puis sur le soutien aux associations, moi je crois que le fait de co-construire les projets, le fait, comme le disait Claire, de mutualiser des choses. Par exemple, on n'aura pas plus de moyens demain pour les assos. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut déjà maintenir les budgets et leur donner une vision pluriannuelle pour pouvoir construire des projets un peu de plus longue haleine et un peu plus gros et croisés entre les assos. Mais on peut mutualiser des choses. Imaginons la camionnette du club de sport. Eh ben, quand elle ne sert pas le mercredi, peut-être qu'elle peut être utilisée par une asso culturelle. Et pour que ça soit possible, il faut aussi que des associations qui ne sont pas dans les mêmes cercles, eh ben, on leur permette de discuter. Et en fait, du coup, elles vont toucher des publics différents parce que tu vas avoir quelqu'un du club de foot qui commencera à connaître la LCV. Alors que sinon, ce n'était peut-être pas pour lui. Et vice-versa. Et quelqu'un de la LCV qui a l'impression que le foot, c'est vraiment pas pour lui, alors qu'en fait, il va se rendre compte qu'il se passe des choses intéressantes. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui passent pour comment on facilite du dialogue. Alors que te promettre plus de moyens, je pense que ça serait une fausse promesse, parce que les collectivités comme les associations, oui, elles sont ponctionnées de plus en plus. Et nous, notre enjeu, c'est déjà d'assurer, de garantir le maintien des moyens actuels à la vie associative.
Bon, c'était ma question financière. Juste après, tu viens d'y répondre, Nicolas, c'est parfait.
Cette question financière, on aimerait ajouter quand même quelque chose. C'est que l'idée, c'est aussi de donner plus de visibilité en justement proposant des financements pluriannuels. On sait que c'est hyper important pour un certain nombre de structures.
Ce serait tous les 2-3 ans, la demande de subvention,
exactement.
Plutôt qu'annuel en ce moment.
Okay. Exactement, et on sait qu'il y a un vrai enjeu de trésorerie sur les associations, qui sont des structures parfois qui effectivement peuvent vite être fragilisées par une situation économique. Donc donner de la visibilité, c'est aussi soutenir l'indépendance des associations, et pour nous c'est hyper essentiel.
Alors, pardon Nicolas. Alors, moi je précise que nous on a la chance d'avoir ces conventions pluriannuelles et l'ensemble des maisons de quartier.
C'est l'ensemble des maisons de quartier qui ont ces conventions.
L'ensemble des maisons de quartier ont des conventions.
Ici à Studio Zef par exemple, nous on est sur une subvention annuelle.
Voilà.
Et donc, on voit la différence de système entre certaines structures, ce qui est tout à fait normal et vous n'êtes pas moins à plaindre ou à se réjouir que nous.
C'est pas la question, mais c'est vrai qu'une des clés.
C'est d'autres enjeux en fait.
Une des clés, je pense, est la particularité de la ville de Blois qui compte 4 maisons de quartier. Tout autant actives les unes que les autres sur des champs un peu particuliers. Enfin, chacun a des champs spécifiques, mais je pense que la réussite, parce que c'est une réussite, c'est d'avoir effectivement sécurisé et pluriannualisé en fait ces financements. qui permettent voilà, de mettre du temps long sur les actions. Donc ça, s'il y a un bilan à faire, en tout cas aujourd'hui, nous, on est dans des situations qui sont quand même plutôt favorables. On est dans des locaux villes, en fait, où les interventions techniques sont ceux de la ville. Enfin, il faut rappeler là où on est. C'est-à-dire que nous, on est hébergés dans des locaux spacieux. On n'absorbe pas le coût du bâtiment. On est soutenu financièrement par la ville. On a des conventions pluriannuelles qui sécurisent. Donc, on a aujourd'hui des conditions, franchement, en fait, qui sont que beaucoup de collègues à travers la France, sur d'autres MJC, nous envient. Enfin, clairement, moi, quand j'en parle, chacun est assez étonné, en fait, de cette organisation.
De ce système et de cette logistique.
Donc là, évidemment, la question demain, c'est... Mais là, vous avez répondu sur la pérennité des financements, sur, effectivement, la contractualisation, sur la pluriannualisation. Ça, nous, c'est important de le savoir, qu'effectivement, on va pouvoir travailler, en fait, sur le long terme. Comme ça. Après, je rejoins, effectivement, la mutualisation sur les maisons. Alors, elle se fait en off. Ça veut dire que là, tu vois, tu parles de camions. Enfin, très clairement, nous, c'est ce qu'on fait avec Bégon, c'est ce qu'on fait avec la IEI.
Nous aussi.
Il y a des choses qui sont sous les radars, qui se font, évidemment, parce que les gens se connaissent. Mais je pense qu'on peut aller plus loin et au-delà, effectivement, du seul périmètre socio-culturel et culturel. Je pense qu'effectivement, il y a d'autres collaborations.
Il y a un cloisonnement fort entre les associations dites culturelles et sportives.
Bah oui, tu citais le club de foot, Nicolas, effectivement. Le club de foot, moi, ça me... Ah ben ouais, tiens, c'est vrai, c'est une bonne idée, ce truc. Tu vois, voilà.
Oui, et puis même entre structures culturelles, des fois, c'est les structures de la ville. Ne serait-ce qu'avoir la scène nationale en même temps que les maisons de quartier qui discutent. Et en fait, avoir des temps réguliers. Il faut pas tomber dans de la réunionnite, parce que aussi, ça prend du temps. Mais en même temps, avoir une certaine forme de régularité pour pouvoir faire le point, que les associations se présentent entre elles. Oui. Et des fois, en fait, souvent, c'est pas pendant la réunion, c'est au café juste après qu'on se dit, ah bah tiens, tu fais ça, moi je fais ça, bah, on pourrait peut-être faire un truc ensemble. Et ça, je pense qu'on peut être facilitateur. Et ce questionnement pluriannuel, je pense qu'en effet, pour les maisons de quartier, c'est quelque chose qui fonctionne et qui est plutôt vertueux, mais qu'on pourrait déployer pour d'autres types, pour d'autres associations où c'est pas encore le cas, le prendre plutôt comme un exemple à suivre, quoi.
Je voulais... vas-y, Nicolas.
Et tu m'avais interrogé sur cette loi contre le séparatisme là et le contrat d'engagement républicain. Et je pense aussi que le rôle de la mairie et des élus, c'est aussi d'être des fois des porte-voix des associations ou des citoyens. Et ce qu'on voudrait faire dans cette évolution du budget participatif et dans les conventions qu'on disait, c'était dire les citoyens... pas seulement pour les consulter, mais leur donner des fois un pouvoir de co-décision ou de parole et qu'ils puissent construire des délibérations qui après sont portées en conseil municipal ou aussi des vœux pour mettre en visibilité des choses. Et dans les choses en visibilité, de la même manière que tu m'interpellais sur ce contrat d'engagement républicain, comme on est dans une radio associative, je voulais parler de cette baisse du FSER au dernier budget où l'État a souhaité baisser de plus de 40% le budget pour les radios associatives et alors que c'est 0,4% du budget de la culture qui n'est lui-même qu'à environ 1% du budget national, donc sous couvert d'économie, en réalité c'est pareil, c'est une volonté de mise sous silence d'un certain type d'association et une attaque contre un peu la démocratie et la liberté de parole et la dépolitisation encore une fois du monde. Et ça, je pense que c'est aussi notre rôle des fois de porter un vœu juste en conseil municipal pour donner de la visibilité à ces choses-là. Voilà, et je pense aussi qu'il y a quelque chose sur lequel j'ai pas mal été interpellé en porte-à-porte. Il se passe plein de choses à Blois, mais en fait, c'est dur de savoir qu'est-ce qui se passe où, à quel moment. Et dans ce rôle de coordination, nous, sur le site internet de la ville, on aurait voulu...
La profusion crée de la confusion.
Voilà, profusion crée de la confusion, peut-être.
C'est une phrase que tu pourras ressortir en meeting, Nicolas.
Merci, je te citerai.
Et la confusion crée de la profusion.
Ok, aussi.
Moi, j'aime bien ce côté small is beautiful, justement. plein de petites choses qui se passent partout. Et pas non plus vouloir que des gros trucs, mais par contre on voulait donner une page sur le site de la ville aux associations et au monde culturel et nous plutôt faciliter l'organisation de l'information pour qu'il y ait un endroit un peu où facilement je trouve l'info de ce qui se passe dans les différents quartiers de la ville, aussi bien culturellement qu'en termes d'associations, parce que sinon il faut que j'aille sur le site de la SCV pour savoir ce qui se passe à la SCV, sur le site de Bégon pour savoir ce qui se passe à Bégon, sur le site du club de sport, et en fait du coup c'est difficile de savoir ce qui se passe cette semaine.
L'agenda de la ville de Blois ne suffit pas pour toi?
Je pense qu'on peut faire mieux.
Okay.
Et que ça peut être bien que ça soit, Blois ne gère pas ça seul, c'est-à-dire presque que ça soit une page qu'on laisse gérer aux associations et que là encore, on facilite la parole libre.
Mais on est un accès, par exemple, et on va...
C'est inventé. C'est inventé, voilà.
Mais on pourrait imaginer un comité éditorial entre les assos qui définit le planning et les publications hebdo à justement valoriser en termes de communication. Ça pourrait tout à fait être intéressant.
Sur la culture, toujours, certains projets en cours validés par la mandature sortante vont peut-être sortir de terre. Je voulais vous interroger sur les lieux de culture, notamment sur ce projet de théâtre qui est en cours, et puis sur ces rumeurs autour de BD Boom qui agitent la campagne notamment. Est-ce que vous voulez réagir l'un ou l'autre, l'un et l'autre ?
Alors sur le théâtre déjà, en fait, donc au précédent mandat, on a eu un accord de mandature qui a permis cette union et la question de faire le théâtre, en réalité, on l'avait porté comme une condition de notre accord de mandature. Donc on va pas maintenant dire qu'on veut plus du théâtre alors qu'on a poussé à ce que ce projet de théâtre se fasse. Ça serait incohérent.
Évidemment.
Donc voilà, et par contre, donc on y est très favorable. Je pense que ça défend aussi l'indépendance du monde de la culture à un moment où il est attaqué dans un certain nombre de collectivités. Et faire en sorte de maintenir le label scène nationale, c'est aussi une manière de maintenir le label scène nationale et donc des financements nationaux qui évitent que ça ne devienne qu'un théâtre municipal qui, du coup, n'est pas à l'abri à un moment de changement de municipalité, qu'on lui donne des orientations et des directions culturelles, dans le sens historique, patrimoine ou j'en sais rien, et un peu moins émancipation et ouverture sur le monde. Ça peut être l'occasion que ce théâtre il soit ouvert en journée, qu'il co-construise avec le monde associatif, qu'il accueille des résidences d'artistes et qu'il fasse vivre justement les droits culturels. Parce que quand tu accueilles des résidences d'artistes, tu peux organiser des rencontres entre les écoles, les ALP, les maisons de quartier et les artistes. Tu peux co-construire des projets avec eux. Et ça, ça crée cette opportunité-là, que ce nouveau théâtre. Et moi, je suis très content qu'on ose mettre... beaucoup d'argent sur la culture quand tout le monde nous demande de mettre beaucoup d'argent sur la sécurité. et sur la maison de la BD, en fait, on est aussi beaucoup interrogé sur le centre-ville de Blois.
Ouais.
Donc sur le centre-ville de Blois, on parle évidemment de comment on remet des commerces, comment on recrée un espace test, comment on veut que ce centre-ville il soit réhabité, un lieu habité et vivant. Mais on pense aussi justement que le centre-ville, les chances qu'il a à Blois, une de ses singularités, c'est qu'il a beaucoup de lieux culturels et scientifiques. La maison de la BD, le muséum d'histoire naturelle, le musée d'art religieux, le château, la maison de la magie, voilà, par exemple. Mmh. Et en fait, tous ces lieux-là, nous, on voudrait qu'on travaille avec eux et ensemble sur quel est notre projet commun. Est-ce que quand on a une place dans l'un, ça facilite pour aller dans un autre et parce que demain, en effet, le restaurant universitaire sera vide. Et on voudrait voir avec eux, est-ce que c'est l'opportunité d'agrandir la maison de la BD ou est-ce que c'est l'opportunité de travailler sur la valorisation de certaines collections qui sont de très grande qualité mais peu valorisées aujourd'hui. Il y a des formidables collections du Muséum d'Histoire Naturelle, il y a de formidables collections du château qui sont entreposées, stockées, mais peu valorisées. Et donc en fait, nous ce qu'on dit c'est on est ouvert à agrandir la maison de la BD, mais ça peut être aussi autre chose. Et en fait, on voudrait le déterminer une fois encore avec ces lieux
avec
culturels du centre-ville
pour
leur donner encore plus de visibilité. Le Muséum d'Histoire Naturelle, par exemple, il fait une programmation extraordinaire alors qu'on lui donne très très peu de moyens annuels. Et dans d'autres villes, Nantes ou ailleurs, c'est vraiment un lieu d'attractivité. Les gens y viennent, y visitent, et je pense qu'on peut lui donner encore plus d'ampleur. La maison de la BD, ils font un travail extraordinaire. Mais ils ont un local aussi qui est beau, mais qui est un peu contraint en termes de circulation ou autre. Et moi, j'aimerais bien, ils nous ont invités pour un débat, mais plutôt travailler avec eux sur qu'est-ce qui marche moins bien et comment on peut continuer d'améliorer, parce qu'on est le seul festival, on est le plus gros festival de BD gratuit
en France,
libre en France. Et ça, c'est quelque chose à faire valoir. Moi, j'aime bien cette idée de gratuité, d'accès à tous, parce que là encore, c'est de l'éducation populaire.
Eh bien, je vous propose de faire une pause musicale. Nous sommes à la moitié de l'émission. On se retrouve dans 3 minutes avec l'ALCV, les représentants de l'ALCV et la liste Blois en commun. A tout de suite.
You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You
You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lifes of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Arm, woman liberationist, and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Revolution will not be televised. Jill Scott Aaron sur Studio ZEF, de retour à l'antenne. Donc pour ces émissions, cette émission spéciale autour des municipales, nous recevons la liste Blois en commun avec Nicolas Orgelet et Claire Molière, et pour échanger avec eux des représentants de la LCV, Frédéric Pinault et Marie-Laurence Giraudeau. On va continuer donc cette conversation autour des projets culturels et sociaux. On en a déjà parlé en première partie. Je voudrais qu'on développe un petit peu, notamment sur l'aspect socio-culturel, revenir sur l'accès à la culture, l'accès à de l'accompagnement, pour qui, par qui. Donc on a bien compris le rôle central, essentiel dans votre projet des associations, à la fois en termes de concertation, mais aussi d'action. Au niveau de la protection des personnes précaires et donc de leur accès à des services, qu'ils soient culturels ou sociaux, comment cette partie de votre projet s'est-elle structurée à Blois en commun ?
Déjà, c'était avoir des personnes précaires dans notre liste, parce que très souvent...
Et faire des remontées directes ?
Voilà, parce qu'en fait, très souvent, les élus sont très vite des cadres sup, bac plus 5, etc. Et donc, déjà, rien que dans la représentation, t'as... une dissonance, donc c'était donner la parole, et ça, on le voit nous par exemple sur les temps de réunion publique, on a des étudiants, des chômeurs, etc. qui prennent la parole pour dire j'ai quelque chose à dire, alors que au début ils se sentent pas légitimes, ils disent ah oui moi je suis pas légitime, etc. Et rien que ça déjà je trouve que ça fait du bien, ça crée... je trouve que ça donne un souffle, déjà dans la manière de faire campagne, parce qu'on essaie de faire une campagne qui ressemble à la manière dont on veut gouverner demain, qui soit cohérente. Et demain, je pense que les enjeux, c'est aussi... alors, il y a des enjeux prix, c'est-à-dire qu'on veut, sur l'ensemble des politiques publiques, développer ce qu'on appelle les tarifications sociales et progressives. Donc là, je m'éloigne un peu de juste le monde associatif.
Ouais, bien sûr, ouais.
Mais par exemple, on en a déjà sur la cantine. on en a sur les bus, mais en fait on voudrait en mettre en place par exemple sur l'eau, la tarification progressive de l'eau, en disant les premiers mètres cubes dont on a besoin pour vivre ils sont gratuits, et à l'inverse les mètres cubes quand tu surconsommes, eh ben, ils sont plus chers. À la fois ça permet de prendre soin de la ressource, mais en même temps de voir ce qui est vital pour les gens. On voudrait sur l'accès au bus par exemple, et ça c'est un peu de la démocratisation aussi, on nous a fait souvent remonter les questions de transport. Tu peux quand il y a un événement culturel, tu peux y aller mais pas revenir quand tu habites dans certains quartiers parce qu'il y a déjà plus de bus. Et donc nous ce qu'on voudrait travailler c'est ben, est-ce qu'on peut pas mettre des navettes gratuites ou étendre des horaires de bus à l'occasion de grands événements, quand t'as la Guinguette, quand t'as un grand événement à la scène nationale,
faire des
quand
bus
grand...
qui repartent de la Creusée à minuit après la
voilà, organiser deux navettes de retour pour pouvoir et qu'ils fassent un tour de la ville pour que ceux qui sont éloignés et ben ils puissent voilà, parce
ce qui se fait dans les grands festivals dans les villes
exactement ouais, parce que il y avait ce côté de festival qui se déplace dans les quartiers, donc ça c'est la culture qui vient chez toi, mais c'est aussi important de pas avoir ce côté assignation à résidence et aussi venir vers. De la même manière, on dit beaucoup, ben, on faire avec les gens, c'est une manière d'ancrer dans la culture et faciliter l'accès. Donc là, c'est sur l'accès à la démocratisation, à pouvoir voilà, faire un instrument, apprendre à chanter. Par exemple, faire une chorale populaire comme ça s'est fait à Tours avec un tirage au sort, mais où c'est un vrai grand chef d'orchestre qui te dirige ou des choses comme ça. Ça nous semble intéressant d'avoir des choses comme ça. Et j'ai perdu ma chute, donc je me retourne.
Je suis là, donc je te rattrape. Moi, j'aimerais peut-être en complément sur les questions de solidarité aussi. Il y a des éléments qui sont clés pour nous. Il y a deux choses. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est assez essentiel. C'est de garantir l'accès aux droits. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'aides qui sont non pourvues parce que complexes, parce que des procédures longues, etc. Mmh. Nous, on pense qu'en remettant de l'humain et en mettant le numérique à sa juste place, parfois un peu moins présent, on peut justement permettre davantage à la population de recourir à ses droits et de faire valoir ça. Donc ça, on sait qu'il y a un rôle clé de la mairie sur ça, sur cet accès aux droits. Et en termes de solidarité, c'est vraiment essentiel pour justement accompagner les démarches administratives et numériques. Et ensuite, ça passe aussi par le fait de prendre soin des agents et des services municipaux. Parce que pour justement avoir des droits qui soient utilisés pour avoir un bon service public, ben il faut prendre soin en fait de ces agents. Et ça participe complètement d'une politique de solidarité, d'une vraie politique sociale. Donc en prenant soin de nos agents pour que nos services municipaux fonctionnent bien, et ben c'est aussi comme ça qu'on garantit de la solidarité et c'est aussi comme ça qu'on a une vraie politique sociale.
Et ça rejoint un peu la question budgétaire. C'est-à-dire qu'on sait que les prochaines années vont être dures parce que l'État s'est beaucoup endetté suite au Covid et comme les collectivités ont des budgets équilibrés, ben, ils prévoient de ponctionner très fortement les collectivités. Et puis en plus, là, il va y avoir des logiques de budget de l'armement de plus en plus fortes. Et donc là encore, on va faire des économies
nous rattrape à ce niveau-là
sur le social, etc. Et on risque de demander encore plus d'efforts aux collectivités. Et donc nous, on fait plutôt un choix budgétaire qui est de dire ben, justement peut-être moins de grands projets. À chaque mandat, on a eu un grand projet qui, à chaque fois, faisait sens, hein, la piscine aglo, le jeu de paume, etc. Mais qui sont des projets aussi coûteux. Et comme il va falloir faire des choix, ben, on s'est dit, ben, peut-être qu'on fait moins de grands projets.
Une certaine forme de sobriété.
Voilà, de sobriété. Et on prend plutôt soin de l'existant. On rénove les bâtiments existants. On rénove les rues. On fait en sorte, en redonnant la juste place à chacun. Et aussi, eh ben, on garantit un maintien de qualité de service public. Parce que dans une collectivité, plus tu licencies, moins tu as de gens, plus tu as de capacité d'investissement et vice-versa. Donc nous, comme on dit, ben, on veut déjà prendre soin de l'humain, faire en sorte qu'on ne dégrade pas la qualité des services de crèche, du périscolaire, des ATSEM dans les classes, etc. C'est un choix politique où du coup, tu as une moins grande capacité d'investissement parce que tu veux déjà préserver l'essentiel, l'humain, la qualité de service public. Et ça, eh ben, c'est ce qui est le plus utile ou plus précaire aussi, quoi.
Une question, Frédéric, Marie-Laurence.
Avant une question, alors moi je suis bien d'accord que je pense que les services publics, c'est la base effectivement du soin, en fait, de la population.
Au sens général.
Ouais, je pense que là, en plus, vu le contexte et ce qui nous attend, je pense que seuls des services publics forts, en fait, vont pouvoir permettre de protéger, en fait, que ce soit sur les questions d'alimentation. Dans votre programme aussi, vous n'en avez pas parlé, mais vous parlez de sécurité sociale, de l'alimentation, sur l'accès au numérique, sur le transport. Je pense que ça, c'est vraiment le socle. Et on ne demandera pas aux associations, en fait, de faire ce boulot-là. Enfin, ce n'est pas aux associations de faire ce boulot-là. Ça c'est une chose. Par contre, on appuie à la collectivité là-dessus, parce que je prends quelques exemples à différentes échelles, mais sur... l'accès des plus précaires, en Vienne, on a un accueil avec Chemin Faisant sur des populations qui sont un peu nulle part et du coup qui trouvent un lieu.
Des invisibles.
Qui trouvent un lieu. Il y a le Carillon qui est pas loin aussi de la LCV. Il y a un accès aux douches aussi. Et ça, c'est une question aussi. Aujourd'hui, clairement, l'accès aux douches pour des gens qui sont à la rue, question hyper importante.
Tu fais bien de mentionner ce sujet.
Voilà, que l'association gère aujourd'hui, je dis, j'en profite.
Oui, malgré nous, en fait.
Alors, un peu malgré nous, mais
sans voilà, mauvaise volonté.
Vous l'assumez. Non, au contraire, on l'assume. Mais nous, on voit aussi quand même une précarisation croissante, en fait, des populations, qu'on ne retrouve pas, du coup, sur l'ADN de la LCV, qui sont les activités socioculturelles, les ateliers, et même sur nos services familles, parce qu'on a un service famille aussi à la LCV. On ne peut pas dire aujourd'hui, en toute sincérité, qu'on arrive à cibler, en fait, les familles, et souvent des femmes seules qui en auraient le plus besoin.
Voilà.
Nos limites, des fois, sur l'action, c'est celle-là, c'est de toucher, en fait, des fois, c'est de toucher, en fait, vraiment les personnes qui auraient le plus besoin d'un appui. Donc ça, c'est une question. Sur la tarification sociale, alors, nous, par exemple, il y a une question qui se pose sur le centre de loisirs. En fait, la LCV, c'est le dernier centre de loisirs associatif de la commune. Et nous, clairement, on est entre 4-5 euros plus cher que les LSH en fait, de la ville de Blois.
Voilà.
Et donc, forcément, du coup, on imagine bien que ça sélectionne un peu les publics qu'on va accueillir. Donc, il y a effectivement du quotient familial, mais aujourd'hui, on est plus cher que des centres de loisirs municipaux. Moi, ça m'interroge sur effectivement l'accès aussi des familles qui auraient bien besoin des offres de loisirs, des modes de garde. Donc, ça, c'est des questions importantes. Qui sont sur la table pour la LCV.
Pour le prochain mandat. Je rajouterais juste une petite chose par rapport au centre de loisirs, justement, c'est qu'en plus, il est à dimension vraiment familiale, et les gens s'y sentent bien. Les parents sont contents, les enfants sont heureux. Voilà, c'est pas le gros truc... à taille humaine, en fait. C'est pas les gros centres d'accueil qu'on peut trouver dans la ville de Blois. Je critique pas, parce qu'ils sont là et c'est bien. Mais le truc, c'est que plein de petites unités seraient sans doute plus intéressantes, humainement parlant, que des gros machins où t'accueilles, 200, 300 enfants, j'en sais rien. Tu vois.
La parole est...
Et je termine juste, pardon Thomas, parce que en fait, c'est le souci de continuité un peu du... continuité du service public.
Ouais.
Il est vrai, en fait, cette question de la tarification du centre de loisirs de l'association, mais il va se poser aussi par rapport à la transition écologique. Aujourd'hui, on est dans une cour qui n'est pas une cour d'école, et aujourd'hui, par exemple, on n'est pas dans la boucle, par exemple, d'un projet en fait pour refaire la cour, pour avoir une réflexion effectivement sur peut-être une partie de débitumisation, de végétalisation de la cour. Aujourd'hui, on n'est pas dans ce circuit-là, donc c'est vrai que on aura des
même au niveau du bâtiment.
Au niveau des bâtiments,
Glisser vers des logiques de développement durable qui sont au cœur, je crois, de votre projet Blois en commun.
Alors, j'essaie de reprendre dans l'ordre, parce qu'il y a beaucoup de choses.
Il y a beaucoup d'éléments, donc vas-y, fais le tri.
Déjà c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'associations culturelles, éducation populaire, mais peu des associations...
C'était le but de votre venue et du cadrage
mais
de l'émission.
Moins des associations qui ont un rôle social important. C'est vrai que moi, par exemple, sur le mandat, j'ai travaillé beaucoup avec les associations d'aide alimentaire, dans le cadre du projet alimentaire territorial, qui me faisait le retour qu'il y a de plus en plus de jeunes, de plus en plus de gens qui bénéficient de l'aide alimentaire et de moins en moins de moyens pour l'aide alimentaire et qu'il faut réinventer ce modèle. Et donc on a construit un projet qui s'appelle Parmentier, dont l'idée c'était de comment on donne accès à des produits bio et de qualité aux personnes de l'aide alimentaire pour soutenir le monde agricole tout en permettant une justice sociale qui ne soit pas stigmatisante et qui permette pas seulement de faire des dons mais aussi de permettre à chacun de choisir et d'avoir une alimentation de qualité quels que soient ses revenus. Et ça, la sécurité sociale alimentation, pour moi, c'est une continuité de ce projet Parmentier. Et l'idée, c'est justement, il y a beaucoup de mairies qui ont testé la sécurité sociale d'alimentation, comme à Montpellier ou ailleurs. Et nous, on voudrait plutôt justement faire avec les associations, en repartant de ce projet Parmentier, en lui permettant de continuer d'évoluer pour partir de la base et de la construction, co-construction avec les associations. Sur la question des douches et des invisibles, dans notre programme, ce qu'on a mis, c'est on voudrait dans la ville développer plus de toilettes publiques et de fontaines à eau. Et en fait, c'est quelque chose qui est très demandé, qui est utile pour le tourisme. Mais notre arrière-pensée, c'était justement tous ces invisibles qui n'ont pas toujours accès juste à un robinet pour demander de l'eau. S'ils demandent au resto, ben, ils peuvent se faire envoyer balader parce qu'ils en ont parfois un peu marre aussi, les restaurateurs. Et en fait, rien que ça, c'est déjà prendre soin, donner le minimum à ceux qu'on ne voit pas et qui sont dehors toute la journée aussi. J'ai perdu un peu le fil. Oui, sur les tarifications sociales et les associations, j'ai pas de solution, si ce n'est qu'il faut qu'on y travaille ensemble et qu'on regarde ce qui est faisable ou pas. Mais par contre, sur la question du patrimoine bâti et de la végétalisation, là, nous, justement, ça fait partie des choses où on voudrait avoir un vrai budget pluriannuel, ce qu'on appelle une autorisation de programme. Ça fait partie des choses qu'on avait obtenues sur le précédent mandat et sur lequel on a dû négocier fort, ne serait-ce que pour le maintenir tout au long du mandat. Et on voudrait l'augmenter, augmenter ces budgets-là, qui sont justement des budgets qui prennent soin de l'existant et du temps long, qui se voient moins, mais qui permettent de prendre soin de l'existant et de s'adapter au changement climatique, tout en diminuant des dépenses d'énergie, tout en permettant de la fraîcheur et quelque chose de social. Et donc nous, on veut augmenter le budget de végétalisation et ses cours plantés, augmenter les budgets pour rénover notre patrimoine. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a un patrimoine qui est énorme. Je crois que c'est la collectivité, c'est des centaines de bâtiments. Et en fait, si on veut rénover tout, c'est des dizaines de millions d'euros. Donc il va falloir aussi réussir à mutualiser mieux. Pour se séparer de certains bâtiments et pouvoir mieux rénover ceux qui nous restent. Et donc ça ne peut se faire, pour que ça se passe bien, que dans une logique de temps long et de concertation avec les associations, pour voir lesquelles peuvent s'entendre, travailler ensemble, partager des locaux, parce que sinon c'est quelque chose de trop brutal et trop imposé, et qu'il faut voir en fait dans ces logiques de mutualisation, elles ne peuvent que se co-construire si on veut qu'elles soient fonctionnelles.
Sur la question de la rénovation, pour continuer un peu sur le développement durable, avec une question transversale qui concerne aussi les associations. Je pense, alors évidemment ici, la plupart des associations blaisoises sont hébergées par la mairie dans des bâtiments public. La question de la rénovation, alors donc je parle ici, on peut avoir un peu trop chaud nous ici dans les locaux de Studio Zef l'été, mais je pense aux bâtiments de la rue Nicolas d'Orgelès qui sont assez vétuste, hein, oui. Marie-Laurence, tu confirmes. Cette rénovation-là, elle est prévue dans votre programme, la rénovation des bâtiments publics, alors associatifs ou pas. Hein, là, encore une fois, je prêche pour des bâtiments et des structures que je connais et que Studio Zef côtoie au quotidien. Qu'avez-vous à en dire là-dessus?
En fait, ce qu'on veut faire, c'est.
Et combien ça coûte,
enfin, voilà, le schéma directeur immobilier. Donc, un schéma directeur immobilier, c'est que tu prends tout le patrimoine de ta collectivité et tu essayes de prioriser ta rénovation énergétique. Quand on a travaillé avec les services que sur les 15 premiers bâtiments, ça serait les 15 bâtiments les plus prioritaires, ça serait déjà, j'ai peur de dire une bêtise dans les chiffres, donc je le mets entre guillemets, c'est plus de 50 millions d'euros, seulement pour 15 bâtiments alors qu'on a plusieurs centaines. Donc pour nous, en fait, ce qu'il faut, c'est oser aller vraiment de l'avant et travailler avec la Banque des Territoires, avec des emprunts un peu longs et structurants. Mais peut-être que des fois, il faut, plutôt que de faire des rénovations globales sur un seul bâtiment où tu vas mettre le paquet, mais où du coup, avec un seul bâtiment, tu utilises tout de suite 8 millions d'euros, il faut qu'on aille dans moins de dettes grises, c'est-à-dire... par contre, on fait des économies des fois sur on remplace pas la chaudière, on fait pas attention au radiateur et on a un mauvais usage des bâtiments. Et en fait, il faut aussi qu'il y ait un temps de formation des agents d'éviter la dette grise et du bon entretien d'existant.
Et donc, en fait, une sobriété sur l'endettement aussi.
Ouais, en fait, il faut comme on a beaucoup de patrimoine, peut-être qu'il faut qu'on ait des enveloppes budgétaires conséquentes, mais plutôt que vouloir faire 4 bâtiments passifs, on arrive à en toucher 30 pour faire partout, déjà ce qui est essentiel, et puis surtout arrêter de rogner sur le frais de fonctionnement qui fait que ta chaudière finit par tomber en rade et que ça te coûte beaucoup plus cher que si tu l'avais entretenue, et sur comment je mets le juste niveau de radiateur, comment je change déjà quelques fenêtres, j'arrive à mettre une ventilation mécanique là où il n'y en a pas, où ça crée aussi des problèmes de santé des fois parce que après tu as de l'humidité partout, avoir une vision plus globale. Et là, pour le coup, on a dit qu'on était un peu anti-numérique, mais sur ça, y a quand même, ça peut être intéressant, des fois, d'avoir un suivi de consommation numérique sur la globalité des bâtiments pour pouvoir mieux se rendre compte de où est-ce qu'on surconsomme, où est-ce qu'on consomme moins, et pouvoir, après, avoir des services qui soient en support et en appui de tous les usagers pour leur dire, là, on vous a réglé vos radiateurs comme ça, là, il faut faire attention à ci, à ça. Parce qu'on se rend compte, des fois, on met beaucoup d'argent pour refaire des bâtiments, mais il y a la moitié de l'économie d'énergie, c'est par le bon usage d'un bâtiment.
Enfin, moi, je peux que le souscrire.
Moi, je valide aussi.
Et si j'avais une réflexion, c'est que là, vraiment particulièrement par rapport aux bâtiments qui sont mis à disposition pour l'association, je pense que les mieux placés, en fait, pour prendre soin du bâtiment, en fait, c'est ses occupants. Et je pense qu'il y a quelque chose. Alors, nous, on a bien travaillé avec la municipalité actuelle, mais je pense qu'il y a quelque chose à retravailler sur comment, effectivement, l'occupant. Qui connaît le mieux son bâtiment en fait est plus impliqué en fait dans des plans de suivi. Moi concrètement, je passe mon temps à baisser des radiateurs dans la structure. Je
c'est
passe
aussi
derrière
ça, le job d'un directeur de structure.
Ben oui, alors c'est non écrit, mais je pense qu'il y aurait quelque chose effectivement à mettre en place pour travailler avec les services en disant on fait un point par exemple mensuel sur la conduite du bâtiment parce que on n'est pas toujours au courant des multiples interventions et c'est normal qu'on le soit pas parce que en fait un bâtiment là comme la LCV, enfin c'est même deux bâtiments en fait, mais c'est il y a plein d'interventions sur du gaz, sur de l'électricité, sur du chauffage, sur des vitres. Enfin, c'est vraiment énorme. Je pense que là, il y a quelque chose à faire, effectivement, pour une meilleure sobriété et utilisation de l'équipement. Ça, c'est une certitude. Moi, j'avais une autre question sur la transition écologique et j'en profite, je sors mes dossiers. Nous, par exemple, on n'a pas pu intégrer, en fait, le marché qu'a signé la ville. Pour vous expliquer, en fait, donc vous le savez, la ville est repassée sur une cantine municipale. Et malheureusement, nous, en étant associatifs, on n'a pas pu, en fait, intégrer ce marché, pour des conditions réglementaires. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas intégrer la société publique locale qui a été mise en place. Donc ça, j'aimerais savoir si, effectivement, demain, il y a une solution à cette histoire-là. Parce que, donc, nous, on est avec un fournisseur, on est avec l'ancien fournisseur de la ville de Blois. Et moi, personnellement, j'aurais bien voulu intégrer, que le centre de loisirs sur ses repas intègre ce marché public local.
Nicolas.
Je ne sais pas si c'est faisable. En général, à tout problème, on peut trouver une solution quand on prend le temps. Mais je pense que l'enjeu, en fait, au moment où on a repris la cantine en régie, c'était déjà, en très peu de temps, il fallait faire en sorte de reprendre tous les personnels, d'éviter une rupture de continuité du service public et de trouver des partenaires dans les autres communes pour que ça soit financièrement soutenable. Donc je comprends aussi que dans un premier temps, il y a eu cette volonté de faire simple pour déjà juste réussir cette transition et après réussir à ouvrir vers d'autres types de structures. J'imagine que c'est faisable. Après, une société publique locale, le principe, c'est qu'en fait, c'est plusieurs organisations de collectivités qui s'associent pour co-gérer quelque chose. Donc, ça porte bien son nom, c'est qu'en gros, ça doit être des structures de collectivités et pas des structures privées. Sinon, ça requalifie le type de structure que c'est. Et en fait, c'est un grand avantage d'être une société publique locale, c'est que en fait, c'est la collectivité qui gère comme une régie, mais en même temps, comme tu es SPL et pas vraiment régie, tu sors du droit de la fonction publique et ça te permet de mieux valoriser notamment des salaires, parce que si tu veux avoir un bon cuisinier et que tu es bloqué par le code, tu n'arrives pas à le payer à sa juste valeur et tu n'arrives pas à avoir un bon cuisinier pour la restoco. Donc nous, ce qu'on veut, c'est réussir à faire évoluer cette SPL gros projet, c'est refaire la cuisine centrale parce qu'on a un risque de rupture du service public tant elle est abîmée et on voudrait, quitte à faire de refaire une cuisine centrale, réfléchir à est-ce qu'on peut faire justement un restaurant solidaire les week-ends ou autres et à quoi ça pourrait ressembler. Et ça, le co-construire avec toutes les associations qui ont un rôle social, qui connaissent bien le terrain pour voir à quoi ça pourrait ressembler et qu'est-ce que ça pourrait être un restaurant solidaire le week-end. Et oui, on voudrait ouvrir plutôt d'abord à des structures du Blaisois proches pour pas devenir un gros truc qui part à Pétaouchnok pour livrer. Donc ça aurait du sens de réussir à travailler avec vous. Mais tout ce que je peux dire, c'est oui, on est prêt à y travailler, mais non, je suis pas certain qu'il y ait une solution, il faut qu'on y travaille ensemble. Mais souvent, quand on prend le temps de travailler, on trouve une solution.
Il nous reste quelques minutes pour poser des questions en vrac, si je puis me permettre l'expression. Donc c'est le moment de conclure, de tirer vers la fin. Si vous avez des remarques, des questions qui sont passées à l'as dans la conversation qui vient de se dérouler.
Peut-être une question autour du lien quartier-Vienne-Ville, parce que tout à l'heure tu évoquais, Nicolas, la revitalisation du centre-ville. Et je voulais te poser cette question-là, c'est comment on organise en fait les circulations quartier-Vienne centre-ville, parce que Marie-Laurence l'a dit, en fait il y a toujours ce petit franchissement ligérien,
la ville dans la ville, le quartier-Vienne
qui est parfois un peu difficile. Nous on le voit quand on participe au rendez-vous de l'histoire, alors les gens au début nous disent ah, mais on pensait que c'était à 12 km, mais en fait vous avez mis un quart d'heure pour venir, voilà. Mais n'empêche que il y a cette jolie barrière naturelle qu'est la Loire, et comment du coup vous pensez travailler la jonction?
C'est pas une question facile, parce que par exemple, tu vois, sur le centre-ville, souvent on nous questionne sur le stationnement, et j'ai déjà eu des gens qui habitent du quartier Vienne et qui me disaient je ne vais pas consommer en centre-ville de Blois parce que je peux pas me garer. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose
ça paraît paradoxal,
de l'ordre psychologique. Nous, ce qu'on voulait déjà, c'est quand on parle de centre-ville, on voulait justement intégrer l'entrée de Vienne pour que le centre-ville ne soit pas perçu que la partie historique, mais qu'on considère que l'entrée de la rue Wilson, eh ben, ça fait partie du centre-ville déjà quand on parle du centre-ville. Et quelque chose qui a été pas mal critiqué au moment où on a parlé de revitalisation du centre-ville, c'est qu'on a dit qu'on voulait oser rendre piéton régulièrement le pont Jacques Gabriel le dimanche. Parce qu'en fait, on a l'impression que le rendre piéton le dimanche, parfois, eh ben, c'est pas, ça impacte pas les commerces, mais que par contre, ça peut permettre que les bords de Loire deviennent des lieux de promenade de manière ponctuelle. En fait, c'est la régularité qui fait que les choses s'ancrent dans les têtes, qu'il faut oser des choses aussi pour faire revivre le centre-ville. Et t'essayes, ça marche pas, mais en tout cas, il faut oser des choses. Et que ça peut être une manière justement de relier les deux rives et de faire de Blois un peu une ville promenade. Parce qu'en fait, quand tu veux revitaliser quelque chose, il faut prendre un angle, un parti pris. Et nous, le parti pris, ça a beaucoup été celui de la promenade. C'est-à-dire, on dit, on veut faire une promenade, par exemple, à travers la Vacquerie, qui relie la Bouillie, qui va par la Vacquerie et qui va jusqu'à la Loire, et qui vraiment traverse tous les quartiers jusqu'à la Loire, parce qu'on a les potentiels, les lieux où passer. Et de la même manière, on voulait partir de la couronne nord, traverser Villiers-Fin, puis tu peux arriver au parc de la Roue, suivre le long du cimetière, le chemin un peu de la Roue, traverser le centre-ville par Saint-Vincent et arriver jusqu'à la Loire. Et avoir ces grands lieux de promenade et assumer le centre-ville comme un lieu où on se promène, un lieu où on est, voilà, avec ses enfants, en famille, et on flâne. Parce que c'est quand tu fais tes courses en centre-ville plutôt qu'à la périphérie, c'est pour ça. C'est parce que tu as des jeux pour enfants, parce que tu as des lieux culturels, parce que tu flânes. Et justement, cette idée de temps en temps de rendre ce pont uniquement piéton, c'est le fait d'assumer centre-ville des fois comme un lieu de promenade. Et je crois que le faire de temps en temps le dimanche, c'est faisable. C'est voilà.
Eh bien, je me permets, puisque la question a été posée sur l'extension, on va dire, du centre-ville, la question de prolonger des questions qui semblent évidentes, sur le rôle de Blois au sein d'une communauté d'agglomération et d'un rôle culturel, peut-être. Vous avez parlé de décentraliser. Est-ce que le projet communautaire fait partie du projet des élections municipales dans le cadre de votre campagne, ou c'est vraiment pour la suite
Alors on a beaucoup de propositions qui sont des compétences du conseil communautaire. Quand à chaque fois que tu parles du transport, quand on parlait de l'eau, quand on parle des déchets, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre du conseil communautaire. Donc évidemment, c'est un projet qui est aussi communautaire. Toutes les grandes transitions écologiques aussi se font à l'échelle du conseil. Le CIAS est à cette échelle-là, l'action sociale.
Tout à fait.
Et donc on a un rôle en effet de ne pas travailler seul, de travailler avec les communes qui nous entourent. Mais en fait, Blois, c'est à la fois la majorité de la pauvreté. On a un taux de personnes qui vivent sous le taux de pauvreté qui est de 25% des habitants et 50% dans certains quartiers. Blois, c'est là où il y a tous les services publics, donc c'est vraiment central par rapport à la communauté de communes. Mais en même temps, Moi, j'ai une vision aussi où je pense que, tu vois, le vote RN qui s'ancre dans la ruralité, c'est aussi ce sentiment d'abandon. Mmh. C'est aussi ce sentiment que tout va toujours à la ville-centre. Et donc, il faut qu'on fasse attention, justement, que la culture, eh ben, on la pense aussi là-bas. C'est, voilà, quand la scène nationale ou des compagnies, eh ben, se déplacent dans les villages pour aller vers, eh ben, je trouve ça très bien. Quand on travaille, quand le CIS dit, ben, moi, je veux que l'accès au droit, eh ben, on l'emmène là-bas, ou qu'on travaille sur l'aide alimentaire, sur comment on se déplace aussi, eh ben, je trouve ça intéressant parce que il y a ce côté aussi de la mobilité qui est important, et même pour la transition écologique, il faut, oui, certes qu'on mette des bus, mais après très vite tu as des bus qui tournent à vide, donc ça pose des questions. Et il y a aussi la question de la démobilité. Comment c'est le service public qui vient à toi, ça aussi c'est une solution. Il y a la question des mobilités décarbonées. Nous, quand on dit, ben, on veut des voies vélo continues qui viennent vers le centre, eh ben, il faut se rendre compte que tout le monde n'a pas une voiture, que le vélo, c'est pas qu'un outil d'écolo-bobo, c'est aussi quelque chose de l'ordre de l'émancipation. Quand on travaille avec Vélo 41, ils nous le disent bien, quand ils font des vélos écoles, c'est pas des enfants qui viennent. Souvent, c'est des femmes seules et isolées pour qui apprendre à faire du vélo, c'est pouvoir se déplacer, accéder aux services publics, faire ses courses, et c'est un outil d'émancipation. Et moi, j'aime bien prendre, se dire que une écologie positive, une écologie qui fonctionne, c'est une écologie qui est sociale, c'est une écologie qui est populaire. Et on le pense aussi dans le tourisme. Après, j'arrête parce que je fais un tunnel. Mais dans le tourisme, c'est pour moi des grands sites naturels qui soient accessibles à vélo ou autre. Et ben, c'est tous ceux qui peuvent pas partir en vacances qui tout d'un coup peuvent s'y rendre gratuitement. Et c'est du tourisme de proximité.
On termine sur ces mots. Merci Nicolas Orge, les têtes de liste pour Blanc en commun, et Claire Molière, tête de liste numéro 2. Donc non, c'est ça, hein, oui.
Ou numéro 2.
Numéro 2.
Moi, j'aime bien les têtes binômes.
Oui, mais numéro 2, c'est
bien. Tête de liste numéro 2, donc, pour Blois en commun. Merci beaucoup Frédéric Pinault et Marie-Laurence Giraudot de la LCV d'être venus converser, échanger, donc,
merci,
avec
merci
cette
merci
liste municipale. On rappelle, les élections municipales donc se tiennent le 15 et le 22 mars ici à Blois et partout en France. Vous pourrez retrouver les autres émissions des autres candidats donc sur notre site très bientôt. Merci à toutes et à toutes de nous avoir suivis. Des programmes continuent sur Studio ZEF.